Chapitre 11. Je n'oubliai pas l'invitation faite par M. Rouchaine et, la semaine suivante, je me rendis à la Sauvée. C'était un vieux petit manoir aux murs gris, sillonné par les cordons encore secs des plantes grimpantes dont la floraison les couvrirait au printemps. Quelques sculptures en partie effritées couraient en guirlande autour de la porte cintrée. M. Rouchaine me montra qu'elles représentaient des marguerites et des épis de blé qu'on retrouvait dans les armes de Trézonne. La Sauvée, autrefois, était en effet la demeure des cadets de la famille. Après les guerres de Vendée, le vicomte Henri de Trézonne l'avait donnée en toute propriété, avec les terres y attenant, à Pierre Rouchaine, qui lui avait sauvé la vie. Le vieillard m'expliqua cela tout en me montrant son jardin, où déjà le premier soleil de mars faisait surgir quelques espérances printanières. Il marchait lentement, et le vent frais qui venait de l'est gonflait sa blouse bleue autour de son corps maigre et alerte. Nous passions dans des petites allées couvertes de cailloux blancs qui crissaient sous les pas. Des buis bien taillés bordaient les parterres, où les poiriers en quenouille, encore squelettiques, se dressaient à intervalles réguliers. Tout au fond, après le potager, apparaissaient les ruches, car M. Rouchaine était un apiculteur passionné. Or, tandis qu'il me donnait quelques détails sur les mœurs des abeilles, une idée me vint tout à coup et je l'exprimai à haute voix. « Est-ce que je ne pourrais pas établir des ruches dans mon jardin ?»« Mais certainement, ce serait une occupation à la fois intéressante et lucrative. Je me mets à votre service pour tous les conseils dont vous auriez besoin, mademoiselle. » Nous nous assîmes sous un petit kiosque rustique qui se trouvait non loin de là et je questionnai le vieillard sur ce sujet qui m'intéressait subitement car je venais d'y voir une source de travail et de petits revenus. Il me donna toutes les indications, tous les prix et m'offrit d'établir lui-même les premières ruches et de guider mon inexpérience. Je le remerciai avec chaleur en acceptant cette aide précieuse. Mais il m'interrompit. « Laissez donc, mademoiselle, c'est un plaisir quand on peut aider une jeunesse courageuse et bonne comme vous. Il n'y en a pas à la douzaine, allez, ce n'est pas l'Angélida des Bardômes qui ferait ça. Est-il possible, seigneur, d'élever une fille de cette manière? C'est une fainéante, une coquette. Quand je la vois, avec sa figure enfarinée et ses attifements de saltimbanque, je reste tout encolérée pour le reste de la journée. » « Car ça me fait mal, voyez-vous, mademoiselle, de penser que cette fille-là appartient à une de nos meilleures familles paysannes. Ah, si sa grand-mère voyait cela !» Il soupira en se levant lentement. « Le temps fraîchit. Rentrons, si vous le voulez bien. Je vais vous faire goûter ma liqueur de framboise, puis je vous montrerai les broderies de ma défunte. » Je le suivis dans la maison qui était fraîche et un peu assombrie, car un nuage porteur de giboulées commençait d'intercepter la lumière. Mais un beau feu de bois pétillait dans la cheminée de la grande salle où se tenait habituellement le vieillard. Je bus la liqueur de framboise, puis nous montâmes à la chambre de la défunte Madame Rouchaine. La pièce close sentait le renfermer. Mon hôte ouvrit une fenêtre, poussa un volet. Il alla ensuite vers une commode ventrue en vieux noyer et, en se courbant, introduisit la clé dans la serrure d'un des tiroirs. Celui-ci, ouvert, laissa apercevoir des piles d'un linge jauni. Le vieillard murmura. « C'est tout neuf. Elle est partie à 26 ans. Elle n'avait pas eu le temps d'user. » Ses doigts maigres, calleux, déformés par le travail de la terre, soulevaient doucement les chemises de toile, les jupons ornés, au bord d'un petit feston. Tout en dessous, ils prirent un paquet long, enveloppé de papier de soie. « Voilà ses dernières broderies, celles qu'elle a faites après notre mariage. » Il se redressa, écarta sur la commode quelques bibelots pour poser le paquet à leur place. Une émotion presque solennelle se répandait sur sa physionomie. Il leva le papier et dit « Regardez, mademoiselle !» Oui, elle était une habile brodeuse, celle qui avait jeté ses dessins exquis sur la toile fine, sur le linon et le tulle. Ses guirlandes semblaient faites de fleurs vivantes, ses nœuds avaient la grâce souple de la coque de ruban que forme une main à droite. Sur un carré de tulle, des tiges de fuchsia semblaient frissonner et se gonfler de sève. Je murmurai « Oh, que j'aime ceci !» Il dit à mi-voix, comme si elle était présente encore dans son grand lit de noyer ciré, là-bas, à l'autre bout de la chambre. « C'est sa dernière broderie. Voyez, elle n'est pas finie. » Le tulle tremblait au bout de ses doigts. Dans le demi-jour de la pièce, je voyais un frémissement sur son vieux visage et la souffrance du passé qui attristait ses yeux calmes. Je n'osais troubler par un mot les souvenirs doux et poignants que ce tulle jauni évoquait pour lui. Mon regard, ému et sympathique, faisait le tour de la grande pièce au parquet luisant, sur lequel s'alignaient, à intervalles réguliers, de petits carrés de tapis à fond rouge semés de fleurs, bordés de tresses noires. Sur la cheminée, une pendule dorée reposait sous son globe, entre deux flambeaux de cuivre. Des coquillages nacrés, couleur de chair, voisinaient sur la commode, avec des faïences rustiques, des photographies, des fleurs artificielles fanées, piquées dans la mousse d'une jardinière d'osier grisâtre. Une courte pointe de reps vert couvrait le lit et des rideaux semblables tombaient du baldaquin de noyer. Près de la seconde fenêtre, celle qui était close, je remarquai une table à ouvrage en acajou, sur laquelle était posé un petit coffret de peluche rouge à coins argentés, un de ces petits coffrets de travail, comme on en voyait encore dans mon enfance, à toutes les devantures des traînes. La peluche avait pris une teinte roussâtre, les coins redevenaient de cuivre. Était-ce le contact des mains, ou bien n'avait-elle pas eu le temps de s'en servir, et les années seules s'étaient-elles chargées de lui enlever sa fraîcheur? La voix du vieillard, toujours basse et lente, demanda « Cela vous ferait-il plaisir, mademoiselle, de copier l'un ou l'autre de ces dessins ?»« Certainement, car il y en a de délicieux, mais je n'oserais pas, ce sont de si précieux souvenirs. » « Si, à vous, je permettrai. Vous avez des yeux que j'aime, des yeux francs et qui montrent tout votre cœur. Choisissez ce que vous voulez copier, j'en serai heureux et je suis sûr que cela fera plaisir, là-haut, à ma pauvre Madeleine qui était si serviable. » Il tenait toujours le morceau de tulle, la broderie inachevée, au relief superbe. Mon regard, involontairement, revenait vers elle. Il dit avec douceur, comme en s'excusant, « Il n'y a que celle-là. J'aurai peine à m'en séparer, même pour un instant. Mais si vous voulez venir en prendre le dessin ici... »« Non, monsieur, je n'accepterai pas de venir vous déranger ainsi. » Il dit simplement, « C'est au contraire une grande joie que vous me donneriez. » Je vis qu'il était sincère, que je lui étais sympathique, et je ne protestais plus. Il fut convenu que je reviendrai quand je voudrais pour prendre copie des broderies de Madeleine Rouchaine. Madame Mossette, que j'allais voir le lendemain, me félicita d'avoir conquis l'amitié du solitaire de la Sauvée. Monsieur Rouchaine était en fort bon terme avec tous les gens du pays, qu'il avait en estime et vénération, mais il vivait retiré et n'ouvrait pas volontiers sa demeure, si ce n'est au curé, à monsieur de Trézonne et à un vieil ami qui venait le voir cas, cinq ou six fois par an. Je songeais tout haut. Je ne me figure pas monsieur de Trézonne si hautain en relation avec ce bon père Rouchaine. Il se voit assez souvent cependant. Le vicomte a eu recours à ses conseils quand il a commencé d'administrer lui-même ses domaines et il s'en souvient, ce qui est une très bonne note en sa faveur. En effet, la reconnaissance n'est pas chose si commune, je crois, pour qu'il ne soit point inutile de l'admirer quand on la rencontre sur sa route. Et cela me donne de l'estime pour monsieur de Trézonne. Madame Mossette dit d'un ton mi-plaisant, mi-sérieux, « Eh, ma chère petite, n'allez pas trop vous enthousiasmer pour notre beau châtelain, comme toutes nos jeunes filles de par ici. » Je rougis, ce dont ne s'aperçurent pas les mauvais yeux de la vieille dame, et répliquai en riant « Oh, ne craignez rien, madame. D'abord, je n'aurai guère occasion de le voir. Puis, je ne suis pas aussi aisément inflammable que nos villageoises, qu'Angélina, par exemple. » Et je lui racontai que je croyais ma sœur de lait amoureuse du châtelain. Madame Mossette leva les épaules. « Pauvre sotte, mais cela n'a pas d'importance, étant donné la réserve dédaigneuse de monsieur de Trézonne. Angélina se consolera en épousant quelque ouvrier de la ville qui peut-être la battra et l'abandonnera. Car il y a bien à parier qu'un garçon sérieux n'arrêtera pas son choix sur cette tête-là. »